En flamand, on dit « de bouve ». Oh, c'est pas très beau, hein. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, nous, on a été très heureux de recevoir le frère et la sœur. Ils ont été en bénédiction à l'Assemblée et nous nous réjouissons de la communion que nous entretenons ensemble, malgré la distance. Nous avons souffert de l'isolement. Avec les années, nous essayons le maximum de ne pas être isolés, parce que ça, c'est une mauvaise chose. Et nous sommes contents de tisser des liens avec le frère, avec d'autres, mais ça a été une bénédiction. Que le Seigneur bénisse le frère et la sœur. Amen. Alors je dois aussi m'acquitter des salutations de l'Assemblée que je représente. Je leur ai demandé s'ils vous saluaient chaleureusement. Ils m'ont dit oui, Dieu soit béni. Donc vous avez les salutations des bien-aimés de là-bas, de Tourcoing, et aussi de mon collaborateur. Fabrice Créteur, fidèle collaborateur depuis tant d'années, un frère sur lequel j'ai toujours pu compter. Et je sais que ce matin, ça lui fait drôle que je ne sois pas là. Mais bon, voilà, je lui ai dit, mais c'est bien comme ça. Hein? Alors que le Seigneur les bénisse aussi là-bas. Amen. Alors on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et avant toute chose, je voudrais vous demander, est-ce que Dieu nous protège toujours ? Est-ce que Dieu nous protège de tout? Ah, c'est des questions un peu pièges quand même, hein? Oui, Dieu nous protège toujours, mais il ne nous protège pas de tout. Amen. Et vous ne trouvez pas que parfois on confond les deux? Parce que le Seigneur est notre protecteur, on pense qu'on sera protégé de tout. Mais assez rapidement, on se pose des questions, parce qu'il nous arrive des choses étonnantes, et parfois on est même troublé. La protection de Dieu, ce n'est pas une assurance multirisque ou anti-problème. Amen. Ah non, c'est pas ça. Faut bien comprendre les paroles du Seigneur qui a dit que les cheveux de nos têtes étaient tous comptés. Pendant longtemps, je l'ai compris de travers en me disant « Ah ben, ça veut dire qu'il n'y a même pas un cheveu qui va tomber à terre. » Non, ils sont comptés quand ils tombent à terre. Ce n'est pas la même chose. Quand c'est écrit que nos cheveux sont tous comptés, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien nous arriver. Ça veut dire que tout ce qui va nous arriver, même un cheveu qui va tomber à terre, c'est avec sa volonté. Et que Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Amen. C'est différent, ça, quand même. Job a été quand même beaucoup secoué. Vous ne trouvez pas? Le Seigneur Jésus a été abandonné. Ça, ce serait un sujet d'étude biblique. C'est Luther qui méditait cette parole de l'Écriture, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Paraît-il, il est resté des heures assis à réfléchir. Et à la fin, dépité, il s'est levé et dit « Dieu abandonné par Dieu !» Il ne comprenait pas. C'est mystérieux, certaines choses de la parole de Dieu. Mais, c'est le psaume 22. J'ai connu des chrétiens qui ont perdu un enfant. Un couple, ils ont retrouvé leur enfant mort dans leur berceau. C'est terrible, ça. C'est la mort subite du nourrisson. C'est terrible, ça. Alors, vous savez comment on est, hein? Ah, si j'avais été là, si j'avais moins dormi, etc., etc. On ne se fait pas du bien, après. Un autre, un frère qui a perdu son fils, il était dans l'église. Prometteur. Je ne sais pas si c'est bien de parler comme ça. Prometteur. À 21 ans, accident de voiture, il est mort. Oh. Dans ces moments-là, on ne comprend pas tout. J'ai bien aimé le cantique que le frère a fait chanter, tous les cantiques, mais je veux dire, il était en rapport. Mon Dieu, plus près de toi. Allez, donne-moi de t'aimer pour tout accepter, parfois même si je ne peux pas comprendre. Amen. Eh oui. Alors, on va voir ensemble quelques textes qui nous montrent que Dieu ne nous épargne pas les difficultés. Psaume 60, versets 1 et 2. Psaume 60, versets 1 et 2. Au chef des chantres, sur le lys lyrique, hymne de David, pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Verset 5. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Amen. Eh oui. Une guerre sans horreur, ça n'existe pas. Souvent dans la parole, on lit des récits de l'Ancien Testament assez rapidement. Mais peut-être qu'on ne mesure pas tout à fait ce que c'était qu'un champ de bataille à l'époque. C'était atroce. Parfois, les cadavres tombaient. David a connu plusieurs batailles, de nombreuses. Et dans sa vie d'homme, il a vu des choses dures. Et ce psaume dit, je fais ce psaume pour enseigner, et le contexte, c'est la guerre. Et dans la guerre, Dieu nous a fait voir des choses dures. Et oui, dans la vie, Dieu nous fera voir des choses dures. Alors, psaume 66, versets 8 à 13. On va tourner nos pages de la parole. Psaume 66, verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as menés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour donner l'abondance. Amen. Voilà, là encore, il parle du creuset, du feu, de l'eau, des ennemis sur sa tête. Et il dit, tu nous as éprouvés. Avant d'aller au ciel, on va être testé. C'est normal. Il faut être digne du royaume des cieux. Amen. Ah, pourtant, Jacques, faut bien comprendre, on parle. Et je crois que c'est le même mot en grec, il ne faut pas traduire que Dieu n'éprouve personne. Jacques dit, Dieu ne tente personne. Parce que éprouver, ce n'est pas tenter. Quand on éprouve quelqu'un, c'est pour le fortifier. C'est dans l'espoir d'une réussite, d'un mieux après. Amen. Alors Dieu nous éprouve. Par contre, le diable nous tente, parce que lui, ce qu'il veut, c'est notre chute. Il veut en terminer avec nous, mais pas Dieu. Dieu nous éprouve, mais ne nous tente jamais. Quand Dieu nous éprouve, le diable nous tente. Il dit, tu vas continuer. Et le Seigneur t'abandonne. Ça, c'est une tentation. Par contre, oui. Seigneur veut nous faire passer par des chemins qui vont nous apprendre des choses. On lit dans Lamentation chapitre 2, verset 20. Lamentation 2, 20. Lamentation de Jérémie, bien évidemment. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues, mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de la colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme un jour de fête, au jour de la colère de l'Éternel. Il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi, les a consumés. Ah, voilà ce qu'il dit. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de mon carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Amen. Étonnant, hein? J'ai toujours admiré l'honnêteté des hommes de Dieu, des prophètes dans l'Écriture qui expriment leur foi dans les moments difficiles. Je dis bien leur foi, parce que même s'il a l'impression que Dieu est contre lui, que Dieu l'entoure d'un mur, il se confie en Dieu. C'est vers lui qu'il se tourne pour lui parler de tout ce qu'il vit, de toutes ces choses. Soyons sincères dans nos prières. Amen. Ne venons pas vers Dieu en faisant comme si ça va bien, si ça va pas bien. Parce que nous ne serons pas secourus si nous manquons de sincérité. Et Jérémie a vu quand même quelque chose d'énorme. Vous savez pourquoi ça a été écrit, les Lamentations de Jérémie? C'est après que Jérusalem a été envahie, pillée, dévastée, détruite. Il a vu des choses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans un traumatisme psychologique grave d'avoir vu, même pas peut-être, le quart de ce que Jérémie a vu. Quand on voit comment les gens qui ont vu certaines scènes sont détruits pour toute leur vie, on comprend que Jérémie soit passé par des moments si difficiles. C'est une différence entre savoir et vivre. Jérémie savait tout cela. Non seulement il les savait, mais il avait averti le peuple de Dieu. Il leur avait dit, mais s'ils ne se repentiraient pas, Jérusalem serait envahie, Jérusalem serait détruite. Et les faux prophètes disaient « paix, paix ». Tout va bien, mais non, vous inquiétez pas, c'est ici le temple de l'Éternel. Mais Jérémie disait, mais même ce temple, il va être détruit. Oui, il le savait mieux que tout le monde, il le disait à l'avance. Mais quand c'est arrivé, c'est autre chose, on a un cœur. Jérémie a toujours aimé le peuple de Dieu, et quand il a vu la sainte ville tomber, Mais tout tombait pour lui. Nous savons tout ce que je vous dis, vous le savez, qu'on doit être éprouvé par des épreuves. Mais quand on passe par là, c'est pas la même chose quand même. Eh oui. Et peut-être que les pires épreuves, les pires difficultés, peut-être, c'est celles qui ont trait à l'œuvre de Dieu à l'Église. Parce que quand Jérusalem s'effondre, c'est notre foi qui est touchée. Et quand notre foi est touchée, là, on est ébranlé. Mes plus grandes souffrances ont été dans l'œuvre de Dieu. C'est normal, parce que le Seigneur sait tout pour nous. Amen. C'est même bon signe, quelque part, que vous ayez beaucoup souffert pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que vous l'aimez. Amen. Qu'elle n'est pas accessoire dans votre vie. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Les Lamentations de Jérémie, c'est des poèmes, des élégies, des poèmes pour exprimer sa tristesse. En fait, les Lamentations de Jérémie, c'est un homme qui fait son deuil. Faire son deuil, ça prend du temps. On a tort, des fois, on se dit, ça va aller, tout va bien, on fait l'effort. Mais quand on perd quelqu'un, on perd quelqu'un. Et on ne peut pas, comme ça, tourner la page. Il y a des étapes, il y a des psychologues qui expliquent, il y a des étapes dans un deuil, et c'est normal. Il y a des moments, ça va mieux, il y a des moments, on replonge. C'est comme ça. Et quand, dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui nous ont touchés, quand dans la vie, il y a des épreuves qui nous sont arrivées, il faut des fois un certain temps pour faire comme des fois des deuils. J'ai dû moi aussi avoir certains temps assez longs pour digérer certaines choses. Alors, vous inquiétez pas si des fois c'est encore un peu dur. C'est normal. Bon, on a vu ensemble que Dieu ne nous épargnait pas les épreuves. On va voir maintenant que les difficultés, elles sont nécessaires. Amen. On va dans Juges, chapitre 3, versets 1 et 2. Juges, chapitre 3, versets 1 et 2. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Amen. C'est étonnant. J'ai eu un grand-père qui avait fait la guerre. Dans son salon, alors j'étais enfant à l'époque, il avait des obus de la guerre 40, grands comme ça. Plus grands que, enfin non, quand même pas à l'époque, mais pas loin de ma taille. Je rentrais et je voyais ça. J'ai jamais su d'ailleurs si elles étaient... Enfin voilà. Et il avait fait la guerre. Et alors, j'étais difficile. Je mangeais, bon voilà. Je mangeais pas tout ce qu'on me donnait, c'est pas bien, voilà. Et il me disait souvent... Si t'avais fait la guerre, mon garçon, tu mangerais ce qu'on te donne. Voilà. Et certainement que quand on a fait la guerre, on n'a pas envie que les enfants l'apprennent. Plus jamais ça. On entend ça. Hein? Plus jamais ça. Mais Dieu dit, bien moi je veux que mes enfants apprennent la guerre. On veut se protéger. Mais si Dieu est un bon père, il n'est pas un père trop protecteur. Amen. Nos enfants, si on les protège de trop, ils ne se débrouilleront pas dans la vie. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir cet équilibre. Alors Dieu veut que chaque génération de croyants ait ses combats. Parce que nous devons tous participer à cette lutte pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, on va lire dans Ecclésias, chapitre 3, versets 1 à 11. Ecclésias, chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir. Donc là, déjà, dans ces deux temps, il résume tout ce qu'il va dire après. Alors, Ecclésias, chapitre 3, verset 2. Comme j'ai pas mal de références, j'attends un peu, mais voilà. Ecclésiaste chapitre 3, verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter comme Jérémie et un temps pour danser comme David, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Alors, dans ce passage, il y a les temps de la vie, le temps de Dieu et l'éternité. Vous avez remarqué? Les temps de la vie, ça va jusqu'au verset 8. Un temps pour, un temps pour, un temps pour, un temps pour. Le temps de Dieu, ben, j'ai vu que toute chose fait, il fait toute chose belle en son temps. C'est le verset 11. Ça, c'est le temps de Dieu. Et puis, il y a l'éternité, hein, même il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Donc, les temps de la vie, le temps de Dieu et l'éternité. C'est intéressant. Les temps de la vie sont contradictoires, opposés. Et ça, ça nous bouscule. Et des fois, on n'y comprend pas grand-chose. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Nous, on aime bien quand c'est simple. Nous, on aime bien quand, voilà, faut faire comme ça, et c'est bon. Mais dans la vie, on peut jamais toujours faire pareil. Parce que la vie, c'est ce qui caractérise la vie, elle est imprévisible. Forcément. Sinon, c'est pas la vie. Avec un mort, vous aurez pas trop de problèmes. Il y aura pas trop de surprises. Mais la vie est surprenante et ça demande constamment une adaptation. Ah, là c'est comme ça, il faut être comme ça. Ah là c'est autrement, il faut être autrement. Mais c'est ce qui fait qu'on va être équilibré. Et au fond, est-ce que c'est juste d'appeler cela comme je l'ai fait, les temps de la vie? Je dirais plutôt, ce sont les temps de Dieu dans nos vies. Amen. Et on a du mal à concevoir que le temps pour perdre vienne de Dieu. Le temps pour haïr vienne de Dieu. Mais tous les temps viennent de Dieu. Amen. Tous les temps. Bien sûr, nous, il y a des temps qu'on préfère. Mais est-ce que ce sont les temps que nous préférons qui sont les meilleurs pour nous? Pas toujours. Bien sûr, Dieu ne fait pas durer trop longtemps. Amen. Parce que personne ne tiendrait. Mais néanmoins, il nous fera passer par des temps formateurs pour nos vies. C'est comme les ingrédients d'une bonne recette. Pour un bon repas, il faut un peu de tout. C'est impressionnant des fois, chez les cuisiniers, les épices, tout ce qu'ils ont. Alors, si vous voulez faire un bon plat comme ça et que vous commencez à regarder tout ce qu'il faut, ben, si vous allez acheter un peu toutes les épices, la facture va vite augmenter hein, à la caisse. Et il va un petit peu de là, un petit peu de là, un petit peu de là. Puis après, il faut un beau plat. Je crois que Dieu prend de tous ces temps-là pour faire la meilleure recette dans notre vie. Amen. Et même avec nous. Même si des fois c'est du poivre, c'est du sel, c'est du piment. Ou alors je ne vais pas tout dire, mais il y a des choses que je n'aime pas beaucoup moi dans la cuisine. Mais pourtant ce sont des corrections nécessaires. On a besoin d'être corrigé régulièrement dans la vie. Parce qu'on s'éloigne, on s'écarte. Ce sont des corrections nécessaires et ça apporte ce qu'on appelle l'expérience. Amen. Troisièmement, je voudrais vous dire, pour vous parler de l'importance de bien réagir dans les difficultés. Alors, Dieu permet les difficultés, elles sont nécessaires, Et il nous faut bien réagir dans les moments difficiles. Amen. Alors, comment? Alors, c'est là où le cantique va m'aider de tout à l'heure. Le cantique, c'est quasiment mes points que j'avais envie de partager avec vous dans ce bien réagir dans les temps difficiles. Premièrement, j'ai noté « accepter ». Mon cœur voudrait tout accepter. Accepter. C'est la première étape. Comme Job, il faut tout recevoir de la main de Dieu. Comment ? Nous avons reçu de lui tant de bienfaits et nous ne recevrions pas non plus de sa main les difficultés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il a accepté. Savez-vous, on connaît tous cette parole de Job, mais savez-vous ce qu'il a fait avant de parler ? Il s'est prosterné. Et quand il s'est prosterné, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais il faut d'abord se prosterner pour dire ça. Se prosterner, c'est accepter. C'est plier. Amen. Ça, c'est une bonne réaction dans l'épreuve. Deuxième bonne réaction, certainement, glorifier Dieu. Dans nos réactions, on ne glorifie pas toujours Dieu. On laisse la chair, l'emportement, les réactions humaines. Mais apprenons. C'est normal que plus d'une fois, l'effet de surprise. Et le but de ce message, c'est d'essayer de limiter cet effet de surprise. Mais quand on a cet effet de surprise, qu'il nous arrive quelque chose auquel on ne s'attend pas, nos réactions ne glorifient pas toujours Dieu. Mais apprenons, après quelques échecs, à glorifier Dieu dans les moments difficiles, à lui faire honneur. C'est le plus important. Amen. Bien réagir dans les temps difficiles, je dirais aussi un verbe très important, c'est aimer. Aimer. Ça, il faut lire quelque chose. Matthieu chapitre 5, verset 46. Matthieu chapitre 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Aimez. Aimez quand quelqu'un nous a fait du mal. On peut en parler un peu? L'amour s'apprend. L'amour, c'est une décision. C'est pas qu'une émotion, un sentiment. L'amour, c'est une volonté, une décision. Amen. Par exemple, dans votre couple, il pourra arriver des moments où vous, alors on va dire ça comme ça, vous aimerez moins votre femme, vous aimerez moins votre mari. Ou je sais pas si on doit parler comme ça, ou c'est peut-être vous aurez moins d'émotions. Dans ces moments-là, alors vous faites quoi? Vous savez qu'il a été démontré que l'amour émotif dans une vie de couple, ça dure entre 3 et 5 ans. C'est pas long quand même. Et après, on passe à quoi? Le monde divorce. Mais nous, on puise dans l'amour de Dieu. Dieu a décidé de nous aimer pour toujours. Alléluia. Et nous nous décidons de nous aimer pour la vie. Amen. C'est un autre sujet, mais c'est pour nous aider à mieux comprendre. Savoir serrer la main à tout le monde. traversé la rue pour le faire. Quand je préparais ce message, je me suis dit, j'aimerais bien que cette semaine, vous rencontriez quelqu'un en ville. Sur le trottoir d'en face. Parce que je vais vous demander de faire quelque chose. Quelqu'un que, quand vous le voyez, ou vous vous êtes peut-être déjà dit, lui, si je le vois, je ferai comme si je ne l'ai pas vu. Je vous demandais de faire encore pire que de le voir. Vous traverserez la rue. Vous direz, hé, un tel. Bonjour. Bonne journée. Oh, oh, oh. C'est une victoire, ça. Ça, c'est bien réagir dans les difficultés. Aimer. Amen. Aimer. Vous ne dites pas beaucoup amen. On a tous du mal, rassurez-vous. Mais c'est le plan de Dieu. Amen. Si ce matin, vous ne savez pas saluer quelqu'un parce que vous lui en voulez, ben le Seigneur vous demande de l'aimer. Comment on peut aimer quelqu'un quand on le déteste? Un petit conseil pratique, peut-être, commencez à prier pour lui. Ça va vous aider un peu. Alors, vous aurez du mal, vous allez être dans la présence du Seigneur. Je te prie pour... Et vous verrez, ça vous fera du bien. Quand vous allez prier pour quelqu'un pour lequel vous n'avez pas prié depuis très longtemps. Si cette personne vous a fait du mal, elle a besoin de la grâce de Dieu. Si elle est en tort, ben priez pour qu'elle comprenne. Que le Seigneur lui fasse grâce. Amen. C'est pas moi qui vous le demande. Hein. Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Aimer, c'est pardonner. Amen. Remettre la dette. Pardonner. Même les trahisons. Jésus a pardonné à Pierre. Pierre l'a trahi. Et pourtant, l'Évangile dit clairement que celui qui ne confesse pas le Seigneur, celui qui le renie, Dieu le reniera. Pierre a renié. Mais Jésus lui a pardonné. Et pire encore, il lui confie l'Église. Oh. Je crois que le Seigneur Jésus, ça a dû lui faire quelque chose d'entendre. Il le savait, mais c'est comme Jérémie. Il a dit à Pierre, tu me renieras trois fois. Mais vous savez, dans la théologie, on parle de l'impassibilité de Dieu. Et que c'est une erreur, ça. C'est pas parce que Dieu sait tout qu'il ressent rien. Pas parce que Jésus avait prévenu Pierre qu'il le ferait, que quand c'est arrivé, c'était tranquille. Ça a dû être dur pour le Seigneur d'entendre de telles paroles. Mais il lui a pardonné. Alléluia. Il y a des paroles, il faut les oublier. Il y a des paroles, il faut que ce soit mis derrière vous. Amen. Si vous continuez de ressasser des mots qui vous ont blessé, vous vous en sortirez jamais. Quand Dieu pardonne, il a cette faculté d'oublier. Amen. Eh oui. Alors c'est vrai hein, ce que le Seigneur a dit. L'amour, c'est la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'amour, c'est la perfection. Alors, allez, je vais pousser le bouchon jusque-là. Je dis, eh ben, c'est peut-être bien que tu as été blessé. Ça va te rendre parfait. Alléluia. Eh oui. Aimer, ça s'apprend envers les gens qui nous ont fait du tort aussi. Amen. Et puis enfin, dernière bonne réaction dans les difficultés, avoir la foi. On revient dans Lamentations chapitre 3, pour notre dernière référence, Lamentations chapitre 3, pour continuer la suite, parce qu'il y avait une suite, Lamentations 3, verset 16. Lamentations 3, 16, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix. Lamentations 3, 16, hein, maintenant même 17, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, ça ne me fait pas du bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux, parce que je ressens, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Avoir la foi. Tout s'écroule. Jérusalem n'existe plus. Plus de temple. Et toute la foi juive reposer sur le sanctuaire de Jérusalem. Mais alors que tout n'est que sang, Jérémie, au milieu des ruines, dit « Je suis en train de me faire du mal, je suis en train de me détruire. Je veux continuer de croire au Seigneur. Je veux continuer d'espérer en lui. Parce qu'il n'est jamais épuisé dans son amour et sa fidélité. » Alléluia. C'est cela aussi, avoir une bonne réaction dans l'épreuve, c'est de garder la foi, de toujours nourrir la foi au lieu de l'amertume. Dans ce passage, en fait, il y a deux choix. Soit on nourrit son amertume, ah, l'absinthe, le poison. Soit on nourrit son amertume, soit on nourrit sa foi. Et l'amertume, c'est différent de la rancune. J'en ai parlé tout à l'heure, la rancune. L'amertume, c'est pas forcément envers quelqu'un. L'amertume, c'est simplement qu'on est devenu malheureux à cause de ses difficultés. Et on peut être dans l'amertume sans en vouloir à personne. Mais être devenu triste, être devenu malheureux, et ça aussi, c'est pas bon. Parce qu'avoir la foi, c'est retrouver l'espoir en Dieu. Et si on retrouve l'espoir en Dieu, alors on peut retrouver la joie du salut. Alléluia. En conclusion, je voudrais poser la question à quelqu'un, je prêche peut-être que pour une seule personne ce matin. Est-ce que vous êtes un blessé de guerre? Ça existe, les blessés de guerre, hein? Eh bien, félicitations, tu fais partie des soldats de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit à des faux docteurs qui voulaient une marque, la circoncision dans le corps? Il dit que personne ne me fasse de la peine, j'ai les meurtrissures, j'ai les stigmates de Jésus. C'est aux Galates qu'il dit ça. Paul était un blessé de guerre. Alors si vous êtes un blessé de guerre, c'est que vous étiez dans le bon combat. Amen. Mais il ne faut pas que les plaies s'infectent. Les plaies doivent guérir. Si elles s'infectent, ça va devenir pire. Amen. Alors, je voudrais vous donner, pour terminer, deux petites exhortations. D'abord, arrêtez de faire le dur. C'est des fois, quand on est touché, notre réaction, c'est dire « Tout va bien !» Et on pense qu'on va affronter comme ça le problème. Si ça ne va pas bien, si ce que j'ai dit ce matin te concerne, si tu as de l'amertume ou de la rancune, confesse-le au Seigneur. Ouvre ton cœur. Amen. et dit au Seigneur, « C'est vrai, je suis blessé. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. J'ai besoin de retrouver la foi auprès de toi. Amen. » Et laissez-vous consoler ce matin par sa parole, par son esprit. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas pour détruire, c'est pour relever. Alléluia. Et c'est une grâce quand Dieu nous parle. Alors reconnaissez votre problème. Et puis, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Pardonnez maintenant. Je veux dire, prenez la décision maintenant dans votre cœur de pardonner. J'espère que vous rencontrerez cette personne, mais ça c'est le Seigneur qui décidera. Peut-être pas, mais pardonnez. Et il y a peut-être deux cas de figure différents. Cas de figure où il faut pardonner et de nouveau saluer quand vous rencontrerez la personne. Ça a son importance. Parce que saluer quelqu'un quand on a pardonné, c'est comme la preuve qu'on a pardonné. C'est comme la concrétisation de quelque chose qui pourrait rester abstrait comme ça. Mais il y a peut-être un deuxième cas de figure où il faut peut-être reprendre un contact. Alors attention, hein, c'est délicat ce que je dis. Je parle que pour, par exemple, quelqu'un de votre famille, vous avez été blessé, vous vous êtes fermé, et là, il y a de la souffrance. Là, il y a peut-être, pas forcément, vous savez, des fois on a tort, on dit, oh, on va régler notre problème, on va aller au fond des choses, on va tous dire, on fait pire que mieux, des fois. Non, des fois, il y a un temps pour tout, faut pas trop remuer certaines choses, mais simplement, le jour de l'anniversaire. Bon anniversaire, mon enfant. Amen. Bon anniversaire, papa. Bon anniversaire, maman. Et puis c'est tout. Mais, voilà. La relation est rétablie. Parfois, vous savez, quand on pardonne, on ne peut plus retrouver une bonne relation. Parce que la personne concernée, elle n'est pas dans une bonne voie. Elle ne comprend pas dans le Seigneur ce qu'elle doit comprendre. Donc, on ne peut pas retrouver une bonne relation. Je ne parle pas de cela forcément, mais je dis que quand bien même des fois on ne peut plus avoir de bonnes relations avec une personne, il faut continuer de l'aimer et ne pas l'ignorer comme cela. Amen. Que chacun prenne ce que j'ai dit dans son contexte avec mesure. Et si parfois, de ce que je vous dis, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, allez voir le frère Feriz, parlez de ce cas et demandez-lui, est-ce que frère, vous pensez que je dois faire une démarche ou simplement pardonner dans mon cœur devant le Seigneur. Et je suis sûr qu'il vous sera de bons conseils. Gloire à Dieu. Mais ce qui est important, c'est dans l'épreuve d'aimer. Parce que je crois que si on n'aime pas les gens qui nous ont déçus, il y a un autre risque, vous savez, c'est que ça va gagner du terrain. Et on ne saura peut-être même plus tout simplement après aimer. Amen. On prie le Seigneur. Merci pour ta parole parce qu'elle nous éclaire et nous te demandons grâce pour que par ton esprit, ce qu'elle dit soit communiqué et que nous vivions à la gloire de ton nom. Renouvelle-nous, Seigneur, parce que toutes ces choses que tu parles dans l'Écriture, ça n'est pas naturel, ça n'est pas humain. Nous ne pouvons le recevoir que de toi. À ton nom la gloire et la louange, notre Dieu. Amen.